Conférence privée par le Père Philippe à Saint-Joseph le 24 décembre 1986.
Se manifeste tout de suite avec l'orgueil. et la formation du corps de Jésus. Le Verbe devient chair. Essayons de saisir cela, parce que c'est cela qui nous donnera l'ultime lumière. On a l'impression, vous voyez, que le premier plan de Dieu, si j'ose dire, avant la faute, dans l'Éden, dans la justice originelle, c'est très grand. Mais que la paternité de Dieu peut aller plus loin. Et c'est du point de vue de la paternité de Dieu que nous devons découvrir comment Dieu se sert de cette brisure que représente la faute d'Adam et d'Ève, la faute de la femme. C'est la femme qui a péché la première. Elle qui, d'une certaine manière, était plus vulnérable parce que plus proche. Aimée d'une façon plus tendre par le Père. Et voyez, Dieu a voulu la coopération de l'homme, c'est très mystérieux, pour la formation, pour la création de la femme. Une coopération toute matérielle, mais une coopération. Il a plongé Adam dans la torpeur, sans lui demander conseil. Il a formé la femme à partir de là. C'est symbolique comme langage, mais ça correspond à quelque chose de réel. Et les pères de l'Église ont été très sensibles à cela. Les trois coopérations, comme disent les pères de l'Église, les trois coopérations. Cette coopération tout à fait première demandée à Adam. Et cette coopération est tellement forte que d'une certaine manière, il plonge l'homme dans la torpeur et à partir de ce sommeil de l'homme, il prend sa côte et à partir de là, il forme le corps de la femme. C'est bien une coopération toute matérielle. Mais c'est une coopération. La seconde coopération, c'est Adam et Ève. Troisième coopération, c'est Marie, c'est la Vierge. Il y a trois coopérations qui correspondent à quelque chose de très profond, au point de vue de la paternité. Cette triple coopération à l'égard de la paternité. Parce que Dieu n'avait pas besoin de demander à Adam d'entrer dans le sommeil, de prendre quelque chose qui lui appartenait. Ce rapt de Dieu. Mystérieux. Et on donne exprès ces deux récits de la création. Le premier, Dieu ne demande aucune coopération pour montrer la transcendance de Dieu. Dieu n'a pas besoin de la coopération de sa créature. Second récit, il demande la coopération de l'homme. Et puis, l'alliance dans cette coopération de l'homme et de la femme pour la procréation qui demeure malgré le péché. Malgré le péché, il y a cette coopération qui demeure. Et puis alors, la reprise de tout qui se fait par l'Immaculée Conception et la maternité divine de Marie. Alors là, nous touchons quelque chose d'absolu. Le point de vue de la création de Dieu, dans la paternité. Oui, le Créateur pouvait faire un univers meilleur, mais dans le mystère de la maternité divine de Marie, le Père va aller jusqu'au bout de sa communication d'amour. Il ne pouvait pas faire quelque chose de plus parfait. C'est très grand, cela. C'est là on voit comment la maternité divine de Marie, cette maternité virginale, miraculeuse, atteint un sommet. C'est l'oméga de l'humanité. C'est ce que Teilhard n'a pas compris. Parce qu'il y met l'oméga après. Il ne comprend pas que l'oméga de l'humanité, c'est la maternité divine de Marie. L'humanité, là, a atteint son sommet. Comme humanité créée. C'est le corps de Dieu. Donc au sens strict, il ne fait plus partie de la création. Et pourtant, il fait partie de la création. Tandis que Marie, elle est une petite créature. Elle est fidèle. Dans quelle mesure Jésus est-il fils d'Adam ? De la femme, on dit tout le temps ça. On ne dit pas le fils d'Adam. Il est de la race d'Abraham et de David. C'est très curieux, ça. Et c'est très significatif quand on regarde dans saint Thomas, on voit toujours ces trois références. quelque chose d'infiniment mystérieux là, voulu par Dieu, pour que de fait cette maternité soit la plus parfaite qu'il soit, maxime étalée. Elle est le sommet de toutes les maternités. Toutes les générations nous proclamons bienheureuses. Et tout est fait pour que cette maternité dépasse tout dans le fruit. C'est bien la chair d'un Dieu. C'est le corps du Verbe qui s'incarne. C'est le visage de Dieu pour nous. C'est le temple de l'Esprit Saint au sens le plus fort. Et le corps du Christ, c'est le passage de notre humanité à Dieu. Oui, ce passage se sert du corps. Jésus, médiateur entre Dieu et les hommes, il est médiateur par son corps. Et son corps est un corps victimal. C'est l'agneau. À la croix dans le mystère de la compassion. que c'est dans le cœur de Marie que se réalisera la compassion. Il faut que le cœur de Marie soit l'unisson du mystère de l'agneau, immolé. Et le cœur de Marie portera l'agneau immolé. Elle en est l'autel qui l'offre. Et je peux dire, voyez, au point de vue réalisation, le mystère de la maternité divine de Marie, c'est bien le sommet. C'est-à-dire, c'est la compassion. Oui et non. Parce que la compassion, c'est Marie qui meurt dans son cœur de mère pour être instrument de l'Esprit Saint dans sa maternité divine auprès de nous. Mais sa maternité divine auprès de nous, c'est une maternité toute surnaturelle. Et le support humain est la mort de son cœur, le grain de blé qui tombe en terre et qui meurt. La création, au point de vue de la grandeur de la création, c'est la maternité divine de Marie qui le sommet. Et la maternité divine de Marie, à la croix, sa maternité auprès de nous, qui implique l'offrande de tout elle-même. C'est le sommet au plan surnaturel. Il y a deux sommets, je crois, qu'il faut bien comprendre. Le sommet de la grâce qui se sert de la nature humaine pour que cette nature humaine aille jusqu'au bout de toute sa richesse, de toute sa perfection. Et quand cette nature humaine atteint sa perfection, Dieu demande qu'elle accepte de disparaître pour laisser toute la place à l'Esprit Saint. Le grain de blé qui tombe en terre et qui meurt pour porter beaucoup de fruits, et les fruits sont divins, c'est tout l'achèvement dernier dans le mystère même de Dieu. Ça fait comprendre une troisième dimension, une quatrième dimension, vous voyez. Pourquoi le corps? Je vous ai dit tout à l'heure, ce matin, pourquoi le corps, source de vie, en coopérant avec Dieu, pour que l'homme connaisse une autonomie plus grande dans son intelligence. Et donc une liberté plus grande. Et pour que l'amour, par le fait même, aille plus loin. Et ici, quatrième dimension, c'est pour que la chair puisse être offerte en victime d'amour. Notre corps nous permet d'être victime d'amour. Dans notre cœur de chair. Donc cette capacité de souffrance qui est dans le cœur de l'homme, que l'ange ne connaît pas, c'est une capacité de souffrance extraordinaire dans le cœur de l'homme et dans le cœur de la femme. Mais ici, le cœur de l'homme et le cœur de la femme sont intimement liés, puisque la blessure du cœur qui exprime cela, c'est celle du cœur de Jésus qui s'étend dans le cœur de Marie, qui s'étend dans le cœur de Jean et qui continue dans toute l'Église. Je crois que c'est la quatrième raison pour laquelle il y a le corps, il y a la chair. C'est pour que l'amour de Dieu puisse brûler la victime. C'est le Père qui aime l'odeur dans un état de perfection pour être offert. Alors, comprenons bien, pas psychologiquement. Disons pas que c'est un état de perfection psychologique, alors il faut ça. Pourquoi ? Non, non, c'est au niveau divin. Alors essayons d'entrer dans cette perfection, ce sommet de l'humanité, l'oméga, la maternité divine de Marie. C'est quelque chose de très très grand qu'on doit contempler à Noël. Et la perfection du corps de Jésus qui s'est réalisé en Marie. Et le Fils de la femme. Dieu a voulu que Marie soit immaculée, que Marie soit totalement consacrée à Dieu. C'est la conséquence immédiate de l'Immaculée Conception. Marie innove, du reste Marie, elle innove tout le temps, puisque c'est le renouveau. Marie, c'est le renouveau. Et dès que le pape demande le renouveau de l'Église, c'est Marie. C'est Marie qui prend possession de l'Église. Et elle prend possession de l'Église à travers le cœur de tous ses petits-enfants. Parce que le renouveau, c'est Marie. Le renouveau de l'humanité, c'est Marie. Et ce renouveau, c'est le mystère de l'Immaculée Conception. Un renouveau qui se fait à partir de cette miséricorde du Père. Et vous voyez, c'est ça qui est très très beau. Pour que nous comprenions mieux. Elle anticipe, comme on dit, les mérites de la croix. Oui, oui. Mais c'est le Père qui fait ça. C'est la paternité qui réclame cette miséricorde prévenante. C'est le Père qui supplie son Fils d'aller jusqu'au bout pour que l'image de Dieu dans le cœur des hommes, cette image qui agonise, soit totalement rénovée en Marie. Vous connaissez bien ce passage dans l'évangile de Saint Jean. Cet officier royal qui va au-devant de Jésus à Cana et qui le supplie en disant « Mon fils meurt. Descends avant que ne meure mon fils. » C'est extraordinaire. Le Père qui se fait médiateur. C'est pas le rôle du Père d'être médiateur, c'est le rôle du Fils. Le Père, d'habitude, il commande. Il exerce l'autorité. C'est le propre du Père. Toute autorité est paternelle. Et le Père, il exerce l'autorité. Et voilà que le Père se fait mendiant à cause de son Fils qui agonise. Ah, c'est très unique, ça. C'est très, très grand. Et je crois que ça nous fait comprendre en profondeur le rôle du Père auprès de Marie. L'image de Dieu agonise à cause des conséquences du péché originel, à conséquence de l'iniquité du monde. Tous les pères de l'Église disent que Jésus arrive au moment où l'iniquité du monde est à son sommet. Là, toujours, l'image du déluge qui préfigure que Dieu, comme un dégoût de l'humanité, tellement le monde agonise sous le poids du péché. Et ça continue jusque maintenant. Et le mystère du Christ vient sauver cette humanité. Et pour ça, cette miséricorde du Père qui reprend en Marie, le mystère de l'Immaculée Conception. cette conception immaculée. Je suis l'immaculée conception. C'est Marie, dans sa propre personne, qui se définit l'immaculée. C'est-à-dire la plus grande petitesse qui soit. Parce que c'est au moment de votre conception que vous étiez le plus petit. Ça ne peut pas aller plus loin. La petitesse, c'est le moment de la conception. C'est la plus grande petitesse. Je suis la conception immaculée. Vous voyez, la plus grande petitesse avec la plus grande miséricorde. C'est ça que Marie dit. Elle dit qu'elle est la petite enfant préférée du Père, en disant « Je suis l'Immaculée Conception ». Elle est dans les mains du Père, et elle est dans cette petitesse, la plus petite, et qui veut rester dans cette petitesse. Je suis l'Immaculée Conception. Dans les mains du Père. Miséricorde prévenante. Qui reprend tout. Et pourtant, elle est fille d'Ève. Et elle l'est pleinement. C'est dans ce sens qu'elle est notre sœur. Notre sœur est immaculée. C'est merveilleux dans la famille de Dieu d'avoir une sœur immaculée. Le Père la reprend entièrement pour qu'elle soit la digne mère de son fils bien-aimé, pour qu'elle puisse coopérer d'une manière virginale avec l'Esprit-Saint. Et c'est ça qu'il y a de si inouï dans cette maternité. Cette mère est toute pure. Donc, c'est la créature. La dernière, la plus petite, la plus fragile. C'est pour ça qu'elle est immaculée dans sa conception. Qui va coopérer avec l'Esprit Saint. Vous savez bien ce que les pères de l'Église aiment de dire, que lorsque Dieu intervient directement et miraculeusement, il fait les choses mieux que si c'était la nature selon son ordre qui réalisait les choses. C'est pour ça que le vin de Cana est supérieur au vin premier choisi par les hommes. Et le vin de Cana est d'un cru unique, maxime étalé. Vous ne pouvez pas aller au-delà de la qualité du vin de Cana. C'est très extraordinaire ça. Et les pères de l'Église aiment de considérer que le vin de Cana est une petite image, un signe. Mystère de la maternité divine de Marie à l'égard de la formation du corps du Christ. Le corps du Christ formé en Marie, il est maxime étalé dans leur décor. C'est le corps le plus parfait qui soit. Il est le fruit de cette maternité. Or, une maternité est relative à son fruit. Et ce fruit, il s'achève en Dieu. Puisque le corps du Christ, c'est le corps d'un Dieu. Et c'est pour ça que Marie est mère de Dieu. Puisque la maternité se termine à la personne. Et le corps du Christ a donc une qualité unique. Il est le corps par excellence. Et on peut dire que dans la vision de sagesse de Dieu, tout l'univers trouve son sommet dans la maternité divine de Marie, qui fait les sources maternelles du corps du Christ qui s'achève dans la très sainte Trinité. Alors, d'une certaine manière, c'est l'humanité du Christ qui est le sommet de l'humanité. qui est le sommet de toute la création. Mais comme il est au-delà de la création, c'est celle qui lui est conjointe et qui en est la source. Vous voyez, cette chose très très mystérieuse de la maternité divine de Marie et du corps du Christ, sommet de l'humanité, c'est l'oméga. On ne peut pas aller plus loin. Dans l'ordre de la perfection de notre univers, là, notre univers atteint un sommet. Et ce sommet, il est pour la croix. C'est ça que le bon père Teilhard n'a pas saisi. Que l'évolution, eh bien oui, elle est pour la croix. Et que le sommet de ce que notre humanité a fait, c'est pour permettre que la croix soit l'entrée dans la gloire. Montre bien que notre humanité ne peut entrer dans la gloire qu'en passant par la croix. Et donc qu'en acceptant d'être entièrement immolé d'une immolation divine. C'est ça le sens de la vie religieuse. Dieu ne choisit pas des fruits secs parce que ça n'irait pas. Il ne choisit pas des fruits stériles, il ne choisit pas des fruits secs. Il leur demande de vivre du mystère de la croix. Oui, ce n'est pas la spiritualité. De l'arbre non taillé. Parce que c'est ça la spiritualité psychologique. La métapsychologique, c'est l'arbre non taillé. Toutes les initiatives, allez-y, poussez, que ce soit vert. Il y a des fruits tout petits, et les feuilles sont très très fortes. Donc les apparences, c'est extraordinaire. Mais un arbre non taillé ne porte pas peur de bons fruits. Mais il est vert. Et les apparences sont magnifiques. Il faudrait tout le temps, dans le secret de son cœur, que la vie religieuse soit ça. Puisque nous sommes dedans. Et la vie religieuse, c'est le mystère de la croix. C'est la taille du Père pour entrer dans la gloire. Pour porter beaucoup de fruits, il faut que le grain de blé tombe en terre et meure. Adieu les apparences. Adieu les feuilles vertes. Adieu tout ce qui semble extraordinaire. Et on entre dans une intériorité d'amour qui accepte la blessure du cœur. On a toujours un cœur blessé. Celui qui n'accepte pas d'avoir un cœur blessé. Et c'est pas drôle d'avoir un cœur blessé. C'est pas drôle, la physionomie du Christ. On aime mieux la physionomie du petit enfant Jésus. Parce que quand on regarde la Noël, c'est merveilleux. Tout est joyeux. Ah oui, il y a une pauvreté très très grande. Il y a une pauvreté cachée, joyeuse. Mais cette pauvreté, elle est en vue de la croix. Le corps du Christ, le corps du tout petit enfant Jésus. Si merveilleux. C'est le corps de l'agneau. Et il n'est pleinement en acte qu'à la croix. Vous voyez, le corps est pleinement en acte qu'à la croix. Il est fait pour cela. Il est fait pour être victime d'amour. Et verser tout son sang. Ah, c'est ça le mystère de la vie chrétienne. Et la gloire est présente dans la croix. Elle est présente aussi à Noël, c'est bien évident. Et Jésus éternellement vit le mystère de Noël. Mais il faut passer par la croix. Et ça, c'est rude. Si on pouvait mettre la croix entre parenthèses. nous sommes pour la spiritualité de Noël. Et nous sommes pour les méta-Noël et le passage direct de Noël dans la gloire. C'est ça la spiritualité de l'enfance. Hein? Oui, 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 psychologiquement parlant, et pas divinement. Parce que l'enfance chrétienne du Christ, c'est Jésus crucifié. Jésus crucifié dans sa chair est plus petit, plus pauvre à la croix que dans la crèche. Il y a une pauvreté, une petitesse de l'enfant Jésus dans son corps et dans sa chair qui est plus grande. Mais il est l'objet devant lequel on se voile la face. Tandis qu'au contraire, à Noël, il attire les bergers et il attire les mages. Hérode n'est pas très content. Mais il attire les bergers, il attire les mages. Il suscite une étoile dans le ciel. C'est extraordinaire, le petit enfant Jésus. Tandis qu'à la croix, l'étoile des mages, Saint. Est-ce que Joseph était le fiancé, Marie? Il remplace pas n'importe qui, il remplace Joseph. C'est Joseph qui était fiancé. Ah, Dieu fait très bien les choses quand il les fait. Vous savez, les sacrifices, c'est toujours personnel. C'est vrai, on ne souffre pas anonymement. C'est de la blague. Je souffre pour l'humanité, mais non, je souffre pour des hommes individuellement. Et Jésus, dans l'agonie, porte chacun des fautes particulières. C'est notre monde d'aujourd'hui qui croit qu'il y a des péchés collectifs. Et qu'il y a une souffrance collective, mais non, parce qu'on cérébralise la souffrance. On dit, c'est l'idéologie de la souffrance. C'est Joseph, il prend la place de Joseph dans un rapt d'amour. L'Esprit Saint agit directement sur Marie. Il coopère avec Marie. Et Marie coopère avec lui pour former le corps du Christ, la conception. Et l'Esprit Saint agit en second lieu, en Père, avec le Père, au nom du Père, l'Esprit du Père, la création de l'âme, unie au Verbe de Dieu. L'âme du Christ subsiste dans le Verbe. Et quand l'Esprit Saint agit de cette manière, il agit vraiment comme l'envoyé du Père. Des deux façons, il agit comme l'envoyé du Père, mais il y a la double action de l'Esprit Saint. Il faut bien comprendre cette double action. Il agit avec la toute-puissance du Père, du Créateur. Il agit au nom de la paternité, comme l'Esprit du Père. Dignité du corps humain dans le Christ. la dignité, la conception dans le Christ. Alors on comprend la fureur du démon, hein, de voir que la conception, la petitesse de l'homme, la petitesse de la petite créature de Dieu, elle est portée dans la très sainte Trinité. On comprend la rage du démon et le ricanement du démon qui veut justement faire avorter. Parce que ça, c'est une action qui n'est plus une action humaine, c'est une action démoniaque dans l'homme et une action démoniaque dans la femme. Pour faire la caricature démoniaque par rapport à l'Immaculée Conception et à la maternité divine de Marie. Vous voyez comment ce mystère de la maternité divine de Marie touche un sommet. On ne peut pas réaliser quelque chose de plus parfait comme coopération entre Dieu et les hommes, au niveau de la vie. Et elle se réalise dans la foi contemplative de Marie. Elle se réalise dans l'espérance contemplative de Marie. Elle se réalise dans la plénitude de l'amour. Vous voyez, tout l'aspect de la vie végétative est entièrement assumé par la contemplation et dans la contemplation. Maternité divine, miraculeuse, selon la chair et le sang, faut toujours dire ces trois. Mais elle est selon la chair et le sang. Et il y a cette coopération qui va jusque-là. Et c'est en ce sens-là qu'on peut dire que la maternité divine de Marie est le signe pour nous, le symbole divin de la paternité du Père. Alors on comprend qu'il faut que la paternité selon la chair et le sang accepte de disparaître. l'Esprit Saint réalise cette œuvre avec Marie. Et le Verbe de Dieu assume toute cette maternité, puisque il en est le terme dans l'incarnation. La maternité divine de Marie s'achève au Verbe incarné. Voilà comment ce qu'il y a de plus humble dans la création, la chair de l'homme, du tout petit enfant, devient comme le miroir de la très sainte Trinité, comme le reflet de la très sainte Trinité. La très sainte Trinité habite dans la chair humaine pour lui donner toute sa noblesse et sa grandeur. Et la chair du Christ, liée à son âme, qui subsiste dans le Verbe, va nous faire comprendre comment l'intelligence de Jésus, dans son expérience, va être l'intelligence la plus lumineuse, qui dépasse en intensité celle des anges et sa capacité de s'offrir en victime d'amour. C'est dans son cœur d'homme qu'on voit l'épanouissement ultime de l'intelligence, et dans son cœur d'homme qu'on voit l'offrande